vous voulez pas, on peut pas y arriver. Si vous voulez pas vous défoncer, on peut pas se défoncer.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Ça y est, nous sommes rentrés dans l'histoire. Avec le coronavirus, nous pourrons dire à nos petits-enfants « j'y étais » et nous raconterons, tels des vieux cons, nos histoires de confinement. Oui, pas le droit de sortir de chez soi, à moins de signer la fameuse attestation de déplacement pour aller faire quelques courses, acheter le pain ou se promener pas longtemps, pas loin et pas avec n'importe qui. Mais alors papy, que faisais-tu de tes journées vu que le jardinage et toi ça fait deux? Tu écoutais de la musique, tu lisais, tu regardais la télévision? Écoute, mon petit, la vie, pendant ces semaines où le monde a changé, rien n'était facile. À part Radio B, tu sais, la dernière radio libre disparue depuis, la musique sur les ondes était d'un ennui, tu ne peux pas te rendre compte. À part les émissions à la gloire des chanteurs victimes du coronavirus, Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny et même Vianney, pourtant tout jeune à l'époque, il n'y avait rien d'autre. À la télé, c'était tous les soirs un hommage vibrant aux victimes du Covid-19 et au personnel soignant à grands coups de reprises de morceaux de chanteurs morts pendant cette pandémie. Sinon, c'était rediffusion de toute la cinémathèque française, de la Grande Vadrouille à la 7ème Compagnie, en passant par les gendarmes et Jean de Florette. Quant aux journaux et autres magazines, plus rien dans les kiosques, la faute à la poste et aux imprimeurs confinés chez eux. Alors oui, je peux dire, j'y étais, mais pas sûr d'avoir envie d'en parler. Au terminus des prétentieux, émission spéciale ce soir, ne sait toujours pas si le monde nouveau annoncé par Macron remplacera celui du fric et des cons. Si vous croyez que nous allons survivre, sur le 90.0 de Radio B, raison de plus pour rester ivre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 pour une émission historique. Eh oui, 20 ans bientôt nous contemplent. 20 ans d'histoire débutés le 1er septembre 2000 à 19h sur les 90.0 de Feu Tropique FM. 20 ans où il s'en est passé des choses, des attentats du 12 septembre 2001 au 49-3 du gouvernement Valls, en passant par la finale de la Coupe du Monde 2006 et le coup de boule de Zidane et le printemps arabe aujourd'hui bien loin, surtout en Syrie. Le monde du fric et des cons a tout osé, c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Aucune limite, toujours plus pour les uns et rien pour les autres. Le ruissellement cher à Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron a dû se perdre dans les égouts de nos riches. Raison de plus pour raconter à notre façon et à celle de Jean-Claude, Patrick et Thierry notre vision du monde. Tonio est toujours confiné chez lui, je vous rassure. Il n'attend que le top départ de l'Agence Nationale de Santé et ses experts pour franchir à nouveau le palier des studios de Radio B. En attendant l'habituel rediff le vendredi à 9h et le samedi à 14h, il a tenu à participer à l'émission. Où était-il en ce dimanche 9 juillet 2006? Son cœur battait-il pour la France ou l'Italie? La rancœur de l'élimination de la Roja en 8e de finale était-elle tenace au point de supporter la Squadra Azzurra? Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous. Et oui, je suis confiné, j'attends avec impatience le feu vert pour sortir.
40% des 18-25 ans n'ont pas voté. 40% des 18-25 ans n'ont pas voté.
L'inimaginable se produit.
Vous imaginez si on est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous?
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire.
Nous sommes la nation.
fera pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois.
Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie.
Nous sommes, nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes, nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes, nous sommes la nation des lumières. Nous sommes, nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes, nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes, nous sommes
Imaginez juste une minute,
monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour.
Oui.
Vous votez pour qui?
Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même.
Ouais.
Donc,
c'est impossible.
Si, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
Ça me paraît assez peu vraisemblable. Bon, on peut passer à la question suivante, peut-être. Question suivante et au pluriel. Pourquoi le Parti Socialiste Français a amené Jean-Marie Le Pen au premier tour des élections présidentielles en 2002? Pourquoi le Front National a eu 4 807 713 voix et Lionel Jospin 4 610 113 voix? Pourquoi 28,40% des électrices et des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche 21 avril 2002 de sinistre mémoire? Pourquoi 997 262 électrices et électeurs ont voté blanc ou nul? Pourquoi la gauche était aussi divisée avec 9 candidats? Jospin, Laguiller, Chevènement, Mamère, Besancenot, U, Taubira, Lepage et Gluckstein. 5 ans auparavant, la dissolution du Grand Jacques avait permis à la gauche dominante de l'époque de diriger notre pays. L'espoir d'une France nouvelle, d'une France plus portée sur les gens que l'argent, cher à François Ruffin, renaissait après les années Mitterrand où 12 années de libéralisme économique cher à Jean-Charles Naouri avaient succédé à 2 ans de socialisme, le vrai avec des ministres communistes. Mais décidément, le Parti Socialiste avait une fois de plus choisi son camp. On a cru au début que c'était celui des travailleurs avec les 35 heures et la création de 350 000 emplois, sans oublier les 380 000 emplois jeunes supprimés en 2002 par le ministre des Affaires sociales, un certain François Fillon. Et la création de la CMU, la couverture maladie universelle, du PACS, le pacte civil de solidarité, du congé de paternité, avait fait naître l'espoir. Mais rapidement, les travailleurs ont déchanté et le monde du fric et des cons est reparti de plus belle. Privatisation de l'opérateur historique France Télécom, du groupe d'assurance GAN, du CIC, du Crédit Lyonnais, d'Air France. Il faut dire qu'il était bien entouré. Dominique Strauss-Kahn, Claude Allègre, Pierre Moscovici, Ségolène Royal, Bernard Kouchner, Laurent Fabius, Michel Sapin, du beau monde et bien de gauche. Jospin a eu beau faire voter juste avant les élections présidentielles la prime pour l'emploi, rien n'y fait. Pas étonnant qu'il n'ait pas réussi à fédérer une gauche comme avait pu le faire François Mitterrand en 1981. Résultat, pas de Lionel Jospin au second tour. À sa place, et pour 197 600 voix, celle qu'aurait pu lui apporter La Guillée, Chevènement, Mamère, Besancenot, U, Taubira, Lepage, qui en totalisait à eux 7 811 623. À la place de Lionel Jospin, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui affronte Jacques Chirac au deuxième tour. La France est sous le choc, un véritable séisme rappelant les heures les plus sombres de la France. Les médias également, avec leurs sondages à la con, ne l'avaient pas vu venir. Et pourtant, ils s'y connaissaient déjà en matière d'expertise politique. Les Elkabbach, Duhamel, Julie et autres Philippe Alexandre. Des manifestations ont lieu partout en France et notamment le 1er mai qui rassemble 1 500 000 personnes. Les artistes ne sont pas en reste, les têtes raides lancent avec divers mouvements politiques, syndicaux, sociaux et artistiques la vie de chaos social. Saez, écorché vif et militant dans l'âme, écrit, compose et enregistre en 10 heures Fils de France, le morceau culte de ce soir. Le titre est mis en téléchargement gratuit par Universal Music. La chanson contient des passages originaux traitant de l'horreur et de la stupéfaction qu'a créé l'annonce du résultat électoral parmi une partie de la jeunesse française. Sans surprise, Jacques Chirac est réélu président de la République avec 82,21% des suffrages exprimés. Plus jamais ça, vote utile en 2007, on pensait que les hommes politiques avaient compris et que la France serait plus celle des gens et moins celle de l'argent. Pas de chance, en 2017, ça recommence, et encore sous un gouvernement socialiste. La seule chose de bien qu'a fait Macron est de faire disparaître le Parti Socialiste. Il ne reste plus qu'à attendre les effets du coronavirus sur l'économie mondiale. Et là, on pourra dire qu'on est vraiment débarrassé du monde, du fric et des cons. Après tout, on peut toujours rêver, l'espoir fait vivre. Voilà, il est l'heure de retrouver le Tarmis des Prétentieux tous les jeudis à partir de 17h15, ou alors Tonio ?
Ou alors vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis aux alentours de 9h, ou du samedi après-midi, pardon, depuis 14h.
Ce soir, une émission spéciale en raison de ce satané virus et du confinement qui nous empêche de franchir les portes de Radio B. Après avoir pris la Doloréane du Doc la semaine dernière et voyagé à travers le temps de plus de 900 émissions, nous allons ouvrir notre livre d'histoire. Et oui, ce n'est pas encore les vacances scolaires et nos chères têtes blondes, mais aussi blanches, ont un sérieux besoin de réviser. Le programme de ce soir, le monde entre 2000 et 2020. La période choisie et imposée n'est pas due au hasard. Le 1er septembre 2000 à 19h, au Terminus des Prétentieux faisait son apparition sur les ondes de Bourg-en-Bresse et de sa région proche. 20 ans plus tard, anniversaire qu'elle fêtera en septembre prochain du côté de la tannerie, on l'espère, elle a demandé à quelques-uns de ses anciens animateurs et à un de ses futurs auditeurs fidèles de raconter à sa manière un événement qu'un artiste Radio B a chanté. Il sera question de politique, de géopolitique et même de football. Ils ont enregistré avec les moyens du bord et on peut dire que le résultat est bluffant. Même France Inter ne fait pas mieux. Alors, il est temps de les retrouver et en chanson, ce qui ne gâche rien. Bonne émission sur le 90.0 de Radio B.
Détendez-vous sur Radio B. Laissez-vous porter par les bonnes ondes.
Alors, une trentaine d'heures après ces attaques, on est en mesure maintenant de reconstituer assez précisément le déroulement des événements.
12 septembre 2001, ah, je m'en souviens. Trois petites tours et puis s'en vont. Plus d'afghans de toilettes dans les hôtels. Celui qui raque devient suspect. Celui qui muse, il ment. L'Arabie, c'est où ? Dites. Vous vous souvenez de tous ces jeux de mots débiles qu'on sortait le 12 septembre 2001 ? Trop choqué, non ? À pas croire un tel truc possible. Et puis je passe sur les où, Sama, etc.
Ben Laden, t'es où ?
Dans ton cul !
Ouais, le 12 septembre 2001, je m'en souviens, grâce à un journaliste d'investigation qui trouvait le 11 septembre génial, David Pujadas.
Tout d'abord, toutes mes excuses pour hier, mais nous avons mal interprété des informations que nous avons eues.
Aux infos du 12 septembre, dans la boucle des infos à New York, il y avait un type qui avait déjà réagi la veille, le 11. Et Pujadas nous en parle, il le fait parler. Paul Bremer sur NBC, à 12h46, le 11 septembre. Paul Bremer, un inconnu pour moi, en tout cas pour beaucoup. Les événements n'ont pas plus de 3h30. NBC interview ce monsieur qui est un spécialiste de la lutte antiterroriste sous Reagan,
une référence, quoi. Président de la Commission nationale contre le terrorisme, apparemment, depuis 99, et surtout PDG de Marsh Crisis, qui est une filiale de Marsh McLennan, une grosse entreprise de gestion de risque de courtage d'assurance, et qui est du 93e au 100e étage de la Tour Nord, qui a été directement impacté par l'avion détourné. Alors, par chance, M. Paul Bremer, il n'a pas été au boulot ce matin-là. 3h30 plus tôt, il était dans un avion.
John.
Mon colonel.
Faut sauter sur Kaboul, John.
C'est pas ma guerre.
On a besoin de toi, John.
Je suis fatigué de tout ça.
Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John.
Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Poussez ma chaise.
Rambo 4. Attention, la guerre peut aussi provoquer des films tout pourris.
En 295, de ses collègues sont morts dans la Tour Nord et bah, il doit être très ému et il pense même pas à dire un mot sur eux. C'est pour dire qu'il a l'émotion maîtrisée. Par contre, il sait déjà presque tout. Je me souviens que tout était dit clairement, ce qu'on nous dira justement à partir du 12. Une opération super préparée, sans doute Ben Laden premier suspect, et puis... deux états du Moyen-Orient, l'Iran et surtout l'Irak. Et puis tout est en place, la guerre au terrorisme.
On est l'armée américaine.
On est l'armée américaine.
Et on va tuer Ben Laden.
Et on va tuer Ben Laden.
On va sauter sur l'Afghanistan.
Ok, vas-y, nous on reste ici.
Arrêtez les mecs, faut y aller.
Tu peux toujours te gratter.
Le American Way of Life n'est pas menacé, il faut... trouver qui nous a visé, même si on le sait déjà, quelles sont nos erreurs, les représailles, apprendre de nos erreurs. Ah voilà. Ah oui, je précise que dès mai 2003, le monsieur Paul Bremer, il est devenu proconsul, enfin pardon, administrateur de l'autorité provisoire de la coalition à Bagdad. Le contre-terrorisme et puis l'assurance tout-terrain mènent à tout, à condition d'en sortir, évidemment, des tours. Ils sont trop forts, ces États-Unis.
Ok, un peu plus de son dans le cas. Ouais, comme ça c'est bon. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je fus choqué dans mon intime et je vous jure que si je n'avais pas eu la foi, j'aurais eu honte d'être musulman. Après ça, fallait qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi nous n'étions que des hommes. Que s'il y avait des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Après cela, on a tous été pointés du doigt. Ils se sont demandé, peut-être qu'ils sont tous comme ça. Les canons se mirent à bombarder Bagdad et des corps s'effondrèrent en Espagne. Nos leaders se mirent à geindre et la Suisse sur un plateau de télé face à un homme d'État mélangea la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je découvris la suspicion. C'est quand un homme a peur et que l'autre en face ne le rassure pas. C'est quand celui qu'on croyait connaître devient soudain celui qu'on ne connaît pas. Les Pays-Bas assassinèrent le descendant d'un peintre de renom. La France continua à dire non. L'Europe se scinda en deux. Les uns et les autres qui ne voulait pas qu'on confonde la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. J'avais la conviction intime ce septembre 2001 que, comme avant, il n'y aurait plus rien. Et en un sens, c'était sublime. Le grain disait adieu à livrer. Alors une parole de paix, j'allais pouvoir délivrer. Ainsi tous se reconnaîtraient dans la grande famille de l'humanité qui... naturellement, viscéralement, ne confondrait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. On allait tout déconstruire. Déconstruire avec 3D, comme Deleuze, Derrida et Debré. Ni fondamentaliste, ni extrémiste de l'islam ou de la laïcité, mais là, ça devient lourd, je crois. Trop compliqué, en tout cas. Et puis moi, je ne mélange pas la politique avec la foi. Et au fait, ce mois-là et le mois qui a suivi, il y a eu l'album de Jay-Z, Blueprint, une leçon. Et le premier classique de Wallen, à force de vivre avec celle qui a dit non. et le bouquin de Jonathan Franzen, les corrections. Et moi, moi qui ne faisais rien, qui galérait à la maison. Ah si, je changeais les couches de mon fiston.
Radio B. What do you want for me? Radio B. You're the one for me.
Qu'il s'agisse, je le répète, du désarmement nécessaire de l'Irak ou du changement souhaitable de régime dans ce pays, il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre.
Lorsqu'on me demande pour qui j'ai voté aux élections présidentielles en 2002, je réponds sans hésiter Jacques Chirac. Et vous pensez bien que cela a été un crève-cœur idéologique de mettre son nom dans une urne, comme cela a pu être le cas en 2017 avec le bulletin d'Emmanuel Macron. Pour ce dernier, seul le coronavirus et ses conséquences surprenantes que sont l'afflux d'aide et d'argent pour les hôpitaux publics et les petites entreprises pourront me faire croire que j'ai eu raison de l'installer sur le trône de France. Pour Jaco, on peut pas dire qu'il a aidé son pays à se retirer de ce monde du fric et des cons, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est la décision de ne pas intervenir en Irak avec les forces de la coalition dirigée par le trio États-Unis, Royaume-Uni et Australie. Ce que George W. Bush présentait comme une guerre préventive en raison de la présence d'armes de destruction massive s'est transformé en guerre civile après l'invasion de l'Irak et de la destitution de Saddam Hussein.
Hop, hop, hop. Plus que 10 secondes. 10,
7,
9,
14,
8,
3,
7,
28,
6, 5, 4,
Bob, le télé vite,
3, 2, 1.
Bonne guerre à toi, Jack. Bonne guerre à toi, Joe. Surtout la santé, hein. L'Irak est mort, hein. Ouais, toi aussi, bonne bonne chose.
Alors, j'espère que celle-là sera aussi bonne que la dernière.
C'est quand le gâteau.
Les États-Unis d'Amérique vous souhaitent à tous
une très bonne guerre en Irak.
Lancée le 20 mars 2003, la deuxième guerre du Golfe s'est achevée officiellement le 1er mai de la même année. Celle d'Emmanuel Macron durera-t-elle plus longtemps ou sera-t-il aussi efficace que la bande du neuneu américain ? 17 ans après la fin de la guerre en Irak, le bilan est désastreux pour le pays. L'augmentation de la sécurité générale, attaques terroristes, vols, agressions, meurtres, prises d'otages, l'augmentation du nombre d'attaques terroristes en dehors de l'Irak, un recul au progrès du droit, qu'il soit international ou de l'homme. Une petite lueur d'espoir et de positivité pointe son nez, la disparition du régime de Saddam Hussein et les premières élections libres en Irak depuis plus de 50 ans. Mais à quel prix ? Officiellement plus de 100 000 morts, dont 66 000 civils, 2 millions de réfugiés, de nombreux centres historiques détruits. Le 1er décembre 2008, George W. Bush a reconnu concernant les armes de destruction massive que, je cite, « le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak ». 12 ans après, les neuneux sont toujours au pouvoir. Leur prochain objectif, l'Iran. Quelle sera la prochaine défaillance du renseignement américain ? Le coronavirus les empêchera-t-il de mettre leurs menaces à exécution ? Il est temps de faire une pause, direction Bagdad. En 2006, Gizmo de Trio et Daniel Jamet en faisaient tout un showtime.
Et bien que le pape ait dit non, on braque l'Irak, c'est le contribuable ricain qui raque. On négocie les contrats sur construire assis. Je reconstruirai ça en braque. L'Irak, les majors compagnies partagent les puits du dictat. Tout ça manque de tact. Combien de morts pour ces aristocrates? End of the réunion. ONU rentre à la maison. J'suis la masse de pognon qui chie sur tes résolutions. Paris, Moscou, Pékin, Côte d'Ivoire, Tchétchène, Tibétain. Votre veto fait rire les ricains. Ils ont vu le sang sur vos mains.
Bagdad live en exclusivité mondiale. Sur toutes les chaînes de merde, salope insatiable en détail. Bagdad Showtime, caméra dans l'arsenal. Pour vendre des scoops, les sales images d'une guerre chirurgicale. Bagdad live en spectacle de l'oncle Sam. On libère les otages, mais sans le pétrole on se touche dommage. Bagdad Showtime, une torpille dans le pipeline. Pour faire tomber le Saddam et puis pour le coffre de champagne.
Du Bush, stylé, vos missiles dans le cul à vous caresser notre air que vous asphyxiez. Notre terre, notre paix, on braque l'Irak. C'est la paix dans le monde qui raque. Les mollas s'en donnent à cœur joie.
Bienvenue dans un monde d'attentats.
On braque l'Irak. Pas grave si le monde craque. Pas d'humanité, juste une arnaque. Assurer le plein pour nos 4-4.
Bagdad live en exclusivité mondiale. Sur toutes les chaînes de merde, ça ne passe assiable en détail. Bagdad Showtime, caméra dans l'arsenal. Pour vendre des scoops, les sales images d'une guerre chirurgicale. Bagdad live en spectacle de l'oncle Sam. On libère les otages, mais sans le pétrole, on fait dommage. Bagdad Showtime, une torpille dans le pipeline. Pour faire tomber le Saddam et puis pour le coffre le champagne. Bagdad live, exclusivité mondiale. Sur toutes les chaînes de merde, ça va passer assiable en détail. Bagdad Showtime, caméra dans l'arsenal.
Radio B, les bonnes ondes.
Zidane est avant tout un homme qui a reçu un don unique. Et aujourd'hui, il a droit à une retraite paisible sans qu'on lui rappelle ce dernier moment pénible.
Voilà, monsieur Zidane, et mes amitiés à votre maman.
Ma maman, quoi ?
Un homme simple.
Quoi ? Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute ?
Alors, respectons-le.
De toute façon, c'est ça ou un coup de boule.
Petit retour en 2006, on aurait pu parler du contrat première embauche, le CPE de Villepin, ou du premier cas en France de grippe aviaire. Tiens, tiens, encore un virus dans l'Ain.
La grippe aviaire, dite grippe du poulet, pourrait tuer 30 millions de personnes en France d'ici demain.
Voilà, il va fort aujourd'hui, 30 millions de morts. En même temps, sur la grippe du poulet, il doit s'y connaître normalement, Pujadas, il a un cerveau de poule.
On va parler football et Coupe du Monde 2006. Effectivement, après le sacre de 1998 et une Coupe du Monde 2002 calamiteuse, on attendait un sursaut de l'équipe de France menée par Zinedine Zidane. Après une phase de groupe difficile, deux nuls et une victoire contre le Togo, la France finit deuxième, ce qui ne m'arrangeait pas vu que cela signifiait un France-Espagne en huitième de finale. Résultat, une défaite de la Roja 3-1. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la Roja dominera le football mondial de 2008 à 2012. Les Bleus arriveront en finale après avoir successivement battu, sur le même score de 1-0, le Brésil et le Portugal. En finale, la France est confrontée à la Squadra Azzurra. Le week-end de la finale, j'étais monté à Paris pour un festival musical et du coup, j'avais retrouvé des amis pour voir le match dans un bar, espérant la victoire française. Et oui, après la Roja, vive les Bleus! Dès le début du match, les deux protagonistes que l'on retiendra de la finale se mettent en avant. Zidane marque dès la 7ème minute de jeu sur pénalty, Materazzi égalise à la 19ème. Les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation. Et à la 110ème minute du match, le coup de théâtre, ou plutôt le coup de tête ou coup de boule, c'est comme vous voulez, que Zidane donne à Materazzi et qui lui vaut une exclusion.
Oh Zinedine, pas ça,
pas du tout avec
pas ça
dégâts.
Zinedine, pas ça Zinedine,
non.
Oh non. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
La France perd au tir au but 5-3. Comme le dit Volo dans sa chanson La Finale, la France a perdu et dans ma rue, y a pas un bruit. Bonne nuit!
Je rentre du boulot, pas envie de réfléchir. Je branche le ventilo, ça va me rafraîchir. J'attrape un surgelé, j'ouvre le micro-ondes. J'allume la télé, je tombe sur la Coupe du Monde. Je sais pas comment j'ai fait, je ne dois pas être normal. Pour oublier que c'était ce soir la finale. Zizou, l'équipe de France, et c'est la Marseillaise. Tout le pays est en transe et moi je suis de la baise. Parce que fatigué, besoin de roupiller. Pas envie de les entendre crier et de me faire réveiller par des on a gagné. Je connais le principe, les règles du jeu. Si je n'achète jamais l'équipe, gamin j'étais fouteux. Les contrats, les transferts, je connais pas tous les joueurs. C'est plutôt les affaires que je retiens par cœur. Les discours patriotes, les commentaires chauvins. Les millionnaires en short qui écrivent des bouquins et viennent à la télé justifier leur coup de tête, leur match de charité, leur départ à la retraite. Parce que fatigué, besoin de roupiller, pas envie de les entendre crier et me faire réveiller par des on a gagné. Dans les tribunes VIP, on place les présidents de clubs et de pays. Les deux en même temps. Les droits audiovisuels pour la planète entière. Les sponsors officiels et les brasseurs de bière. Plus que des dieux du stade, c'est des jeux vidéo. Des super-héros jusque sur mon pot de moutarde. Sur mes bouteilles d'eau. Comme ce soir j'ai pas le choix. Ça me fout un peu la haine. Ça me rendrait fou de joie qu'ils aient tous de la peine. Parce que fatigué, besoin de roupiller. Pas envie de les entendre crier. Et me faire réveiller par des on a gagné. Et ça tacle par derrière, ça plonge dans la surface. Ça sort sur civière en faisant la grosse grimace. Ça se tire sur le maillot, ça laisse traîner les crampons, ça fait son gros faillot, ça réclame un carton. Ça tombe comme des mouches, ça conteste un coup franc, ça réclame la touche, ça se rentre dedans. C'est musclé, c'est viril, ça cherche le pénalty, c'est triché, c'est débile, on a tous le ralenti. Parce que fatigué, besoin de roupiller, pas envie de les entendre crier et me faire réveiller par des qui ne sautent pas, n'est pas français. Fini, la France a perdu. Je souris dans mon lit parce que dans ma rue y a pas un bruit. Bonne nuit.
Radio B, les bonnes ondes.
Il est grand temps que quelqu'un se retrousse les manches et reprenne ce pays en main. Et cette personne, c'est moi. Vive la République, vive la France.
Ah, les années Sarkozy, si loin, si proche. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec le petit Nicolas quand il s'entourait de personnes affichant une taille inférieure à la sienne, celle d'un prince pourtant affublé de talonnettes et d'un Louis XVI à la petite semaine. Il est donc temps de nous souvenir de ce quinquennat. Souvenons-nous du Karcher pour nettoyer les banlieues.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Karcher, qui depuis le confinement est redevenu un instrument à la mode dans le monde rural, où tous les matins, par beau et mauvais temps, les fous furieux du bricolage décapent tout ce qui leur tombe sous la main, de leur terrasse à leur poubelle, en passant par leur progéniture qu'ils ne supportent plus. Souvenons-nous des affidés de ce président hyperactif, le riant Brice Hortefeux et sa tête à prendre des coups de soleil, la pétillante Rachida Dati, qui n'avait pas encore le profil d'un hamster jovial, le désopilant François Fillon, qui se révéla avec le temps plus comme un Thénardier qu'un droupi sous Xanax. Souvenons-nous des écoutes de Paul Bismuth, reprenant ainsi une bonne vieille tradition mitterrandienne.
Dans ces écoutes, on apprend que vous vouliez aider un haut magistrat, Gilbert Azibert, à obtenir un poste à Monaco. Ça aussi, c'est un canular ?
Tout à fait. Chaque fois que vous avez le sens de l'humour, hein. Gilbert est une vague connaissance à qui je voulais faire une blagounette. Nous sommes ici dans une banale affaire privée de canular téléphonique entre vagues connaissances, tout simplement.
Et Paul Bismuth pourrait en témoigner ?
Oh oui, tout à fait.
Et si on l'appelait ?
Eh bien, avec plaisir. Siri appelle Paul Bismuth.
Appel maison. Appel maison.
Bah c'est bon, raccroche, pauvre con.
Souvenons-nous de ce ministère de l'immigration, clin d'œil nauséabond à un électorat de droite et d'extrême droite qui annonçait la parole décomplexée de nombreux dirigeants politiques et élitocrates, de Manuel Valls en passant par Éric Zemmour.
Ici, c'est la France. La femme et l'homme sont traités dans une stricte égalité. On n'est pas au Moyen-Âge, on est en France. Ici, c'est la France.
Souvenons-nous de cette visite au pape branlant en compagnie de grands intellectuels comme Jean-Marie Bigard. Souvenons-nous de ces artistes ayant soutenu l'ancien maire de Neuilly, de Faudel à Enrico Macias en passant par l'inoubliable compositeur Didier Barbelivien.
Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
Et puis je veux dire à tous ces artistes qui ont eu le courage de me soutenir, je veux leur dire qu'ils ont eu le courage de résister à la pensée unique. Je suis fier d'être votre ami.
Souvenons-nous de la crise financière de 2008 et des résolutions sociales du président de la Ve République. Résolution vite envoyée au calendrier grec, conforme à l'expression « va te faire voir chez les Grecs ».
Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, s'exprime, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du 21e siècle.
Souvenons-nous de la claque balancée aux populations africaines dans un discours indigne et méprisant à Dakar.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
La liste serait trop longue, et le meilleur ami du Qatar, bien qu'empêtré dans de nombreuses affaires judiciaires, continue à parader en donnant des conférences à 200 000 euros, représentant la France à l'étranger. Enfin, avant le confinement. Ceci dit, si vous n'avez pas le moral, fermez 2 minutes les yeux, mettez un disque de Carla Bruni, et imaginez vous retrouver confiné avec Nicolas Sarkozy pour plus de 6 semaines.
Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate.
Alors, on a retrouvé le sourire. Portez-vous bien. Avec les Fatal Picard, c'est toujours un plaisir.
un matin de novembre, dans une France encore en noir et blanc, avec pour seul bagage l'espoir de vendre ma négritude contre un peu d'argent. J'étais le fils du tirailleur sénégalais, le banania dans sa version au balai. Celui qui dit Buana, tu peux toujours compter sur moi. Je serai les jambes, la main d'œuvre et les bras. J'ai fumé toute une vie bien plus que de raison, sans Vivaldi au rythme des quatre saisons. Pour gagner mon diplôme de roi des balayeurs, un salaire de misère, le bruit et l'odeur. On n'avait pas la carte et pas l'identité, juste le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien et presque pas le choix. C'était ça la France du petit Nicolas. J'ai vu le jour un beau matin d'avril, dans une France traite, touche pas à mon pote. Ça sentait plutôt bon, la force tranquille, mais il y avait comme un bruit de fond, de bruit de bol. J'étais le fils de l'eau, mon marteau piqueur, la tête de nègre dans sa version petit beurre. Celui qui dit si dit, pour être je serai l'arabe qui cache la forêt. J'ai répondu banco quand on m'a dit intégration, mais c'est plus des études, non, c'est un marathon. Si je serre les dents, aurais-je droit au bonheur? Et si je baisse la tête, aurais-je l'air d'un chômeur? On avait juste la carte mais pas l'identité, toujours le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien mais rien fait pour ça. C'était ça la France du petit Nicolas. Vraiment le jour de ma naissance, mon baptême à moi c'est celui de naissance. Et cette voiture qui crame un matin de novembre, la carte d'identité d'une jeunesse France. Je suis le fils de celui qui n'a plus rien, le mauvais garçon face au karcher à la main. Un apprenti messerine en culotte courte, prêt à dégainer au moindre doute. Il est loin le bon nègre et l'arabe de service, les auvergnats, les bons prototypes, tous ceux qui prient pour qu'il existe encore une vie avant la mort. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas.
Radio B, c'est sur 90 FM et aussi sur internet radio-b.fr.
Je suis maintenant avec Zine El Abidine Ben Ali et Abdelaziz Bouteflika, président tunisien et algérien.
Les deux grands démocrates du Maghreb.
Pardon ?
Bah, au Maroc, c'est un roi.
C'est vrai. Du coup, on est quand même beaucoup plus proche de la démocratie que le Maroc.
Si vous voulez, depuis quelques jours, vos deux pays connaissent des troubles importants. La jeunesse est dans la rue.
Ah non, chez moi, elle est en prison. La révolte est finie.
Déjà ? Et comment t'as fait ?
Bah toi, t'as dû faire venir l'armée pour le couvre-feu.
Oui ?
Ah bah moi, elle était déjà là.
T'es un malin, Bouteff.
17 décembre 2010. Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant tunisien, se voit une fois de plus confisquer sa charrette et sa balance. Depuis 7 ans, il quémande auprès des autorités une autorisation officielle de vendre fruits et légumes. Mais de refus en confiscation de sa marchandise, en passant par une administration qui vient même se servir dans sa caisse, il n'en peut plus. Les agents municipaux refusent de lui rendre son matériel. L'un d'eux le gifle. Personne ne l'écoute, ni la municipalité, ni le gouvernorat de Sidi Bouzid. Humilié publiquement, désespéré, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu. Il décède le 4 janvier 2011. Son geste provoque la colère parmi les habitants de Sidi Bouzid. Malgré la répression, elle s'étend à d'autres villes de Tunisie. Vous connaissez la suite. Les manifestations conduisent au départ du bon président Ben Ali et à son exil en Arabie Saoudite, où l'on s'y connaît en matière de dictature. Le printemps arabe est lancé. Il s'étend à de nombreux pays où les droits de l'homme sont bafoués et où le peuple vit de plus en plus mal la politique économique libérale de leur gouvernement. L'Égypte, la Libye, le Yémen, la Syrie, Bahreïn, l'Algérie, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie se joignent à la Tunisie pour exprimer leur ras-le-bol d'une dictature économique et politique. 10 ans après, le bilan est plutôt contrasté. comme dans le monde, le libéralisme économique est toujours au pouvoir et les peuples arabes souffrent toujours d'un manque de travail et de liberté. Si la démocratie s'installe tant bien que mal en Tunisie, que dire de la Libye, de la Syrie, du Yémen, en proie à une guerre que certains qualifieront de civile, mais orchestrée par des puissances économiques et politiques comme l'Arabie Saoudite au Yémen, la France en Libye ou la Turquie en Syrie. Le tout sous les yeux de l'ONU, qui, une fois de plus, n'a pas joué son rôle de gendarme du monde. En attendant, des millions de personnes ont cru en cette révolution arabe. Le coronavirus sera-t-il leur sauveur, comme ce sera peut-être le cas dans le reste du monde? 40 ans de dictature se sont envolés le 17 décembre 2010. Le peuple arabe est-il désormais libre de ses choix? La route est encore longue. Trio n'a pas fini d'écrire des chansons.
Tant de dictature sous le silence de nos drapeaux, 40 ans à la dure sous les yeux des Occidentaux qui partent en vacances en Tunisie prendre des photos d'Alexandrie et qui d'un coup semblent surpris au réveil du peuple endormi. Merci Égyptien, merci Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider.
40 ans de vie austère sous l'œil rigide des militaires, 40 ans dans la misère sous corruption de fonctionnaires qui décident si tu te loges, si tu travailles, si tu déroges, si tes enfants auront le droit d'avoir du pain pour leur repas.
Merci Égyptien, Libyen, Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider.
Ses œillères, que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres.
À présent reconstruire une liberté, un pays. À présent quel devenir et quelle histoire en Tunisie, pour que les femmes puissent sourire, que les droits de l'homme puissent grandir et que ce passé aboli ne reviennent pas dans l'avenir. Merci Égyptien, Libyen, Tunisien. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider.
Radio B, comme bonne humeur.
Qui dit foot, dit pognon, dit caviar et dit saumon, alors que Rio dit clodo,
dit misère et pas de boulot. Dans les favelas, y en a marre. Laissez la place à Neymar. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du boulot et pas voir dribbler Ronaldo. Platini veut pas de manif. Il veut mater Honduras, Suisse. Platoche se fout des Brésiliens. Il veut voir marquer Schneiderlin.
Amis auditrices, amis auditeurs, Michel, notre maître à tous, m'a demandé il y a quelques jours de chroniquer sur la Coupe du Monde 2014 et sur l'équipe de France. Vide abyssal pour moi qui était la risée de tous à l'école, parce que je n'échangeais pas de vignette Panini à la récré, et parce que j'avais deux pieds carrés. Comment voulez-vous que j'aie quelque chose à dire sur ces idiots milliardaires ? Michel, je crois que techniquement et tactiquement, tu n'as pas choisi le bon cheval pour ta chronique.
Bon, c'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, nous avons réalisé une réelle performance.
En même temps, ça tenait pas du polo, me dit-il, et puis il vaut mieux que t'arrêtes les imitations tout de suite. J'ai donc cherché encore, mais que dire ? Vous la vivez, l'angoisse de la page blanche, la peur du vide ? Heureusement que l'actualité du moment était rieuse et que je retrouvais un peu de joie en regardant les chaînes d'info. Que dire donc ? D'accord, j'ai eu une légère érection quand le 8 juillet 2014, l'Allemagne a tapé le Brésil. C'est vrai que j'ai perdu un peu le fil du score après 6 bières et 4 buts. Mais l'essentiel y était, les Brésiliens étaient humiliés. Mais ça fait pas une chronique. Pour le reste, le véritable événement marquant de l'année 2014 ne fut ni la Coupe du Monde, ni Hollande sur son scooter partant retrouver Julie Gayet. L'événement marquant, c'est bien la mort de l'écrivain journaliste dessinateur moustachu, François Cavanna, qui comme la carpe avec le lapin, s'acoquina avec le professeur Choron, un chauve à cigare, pour révolutionner l'humour français.
Et qu'est-ce qu'on dit ?
Humour qui a du plomb dans l'aile et qui est peut-être tout ce qui nous reste. Et la Coupe du Monde 2014, me direz-vous ? Alors je reprendrai François Cavanna, qui disait que les maçons du Moyen-Âge savaient parfaitement que Dieu n'existe pas, mais qu'ils espéraient qu'à force de lui bâtir des cathédrales, il finirait par exister.
C'est vrai que c'est des gens qui gagnent énormément d'argent, mais je vous dis, quand on voit la pression qu'ils arrivent à supporter pour un événement aussi important, je crois que c'est mérité des salaires aussi astronomiques.
Alors peut-être qu'en célébrant leur but à la con et leur salaire indécent, les footous ont-ils trouvé le moyen de faire exister un dieu du foot qui nous aveugle. Mais tout ça n'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Que Ribéry soit pas joli, c'est pas grave. Que Benzema soit mal poli, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si Valbuena fait du chiquet, c'est pas grave. Ou si Giroud tire à côté, c'est pas grave. Loris est là pour nous sauver, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. Plus personne vous dira des saloperies comme ça. Vous aurez vos statues, peut-être même une rue portera votre nom. C'est pas grave. Si Koscielny n'y fait pénalty, c'est pas grave. Sur une erreur de Debuchy, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu peux pas saquer Sako, c'est pas grave. T'iras faire la fête à Rio, c'est pas grave. Mais tu vas finir à Sochaux, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content, surtout le président. On lui foutra la paix. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si Abidal est cramé, c'est pas grave. Même si Eva est fatiguée, c'est pas grave. Il y aura Kabaye et Matuidi, c'est pas grave. Et Pogba viendra les aider. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. Plus personne vous dira des saloperies comme ça. Vous aurez vos statues, peut-être même une rue portera votre nom.
Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content, surtout le président. On lui foutra la paix, au moins pour cet été.
Radio B, les bonnes ondes.
Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre.
Le 49-3 est un déni de démocratie. Non, ce n'est pas le président Hollande qui l'avait déclaré, mais le futur candidat, malgré lui, à la fonction suprême. Il faut croire que cela lui avait échappé, car non seulement il en a usé lors de son quinquennat, mais BFM TV a même supprimé de son site internet la déclaration du député de la Corrèze datant de février 2006. Qu'est-ce que le 49-3 ? Eh bien, restons au niveau de la France d'en bas, celle qui reste scotchée sur BFM TV, qui trouve qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays, qu'on paye trop d'impôts, que les fonctionnaires sont payés à rien foutre, surtout les profs et les agents des finances publiques, qui étaient Charlie en janvier 2015 et qui applaudissent le soir à 20h le personnel médical alors qu'ils vont se faire soigner en clinique privée parce qu'il y a trop d'étrangers à l'hôpital public. Le 49-3, donc, d'après la lucarne à blaireau chère à Eric Toulis, plus précisément l'article 49-3 de la Constitution, prévoit qu'un texte de loi est adopté sans vote si le gouvernement n'est pas renversé par une motion de censure votée par l'Assemblée nationale. Bah, il est où le déni de démocratie ? Le gouvernement peut être renversé par une motion de censure, donc tout va bien. Le peuple et les députés qui les représentent sont donc maîtres de leur destin et surtout de leur choix. Et là, c'est plus compliqué. En effet, depuis 1958, la procédure de l'article 49 alinéa 3 a été utilisée 89 fois par les premiers ministres. Et dans tous les cas, le texte était approuvé soit par l'absence de dépôt de motion de censure, soit par sa non-approbation. C'était le cas sous le quinquennat de François Hollande et avec Emmanuel Valls comme premier ministre. Oui, vous savez, hein, celui qui était soutenu à la primaire de 2017 par des socialistes. En décembre 2016, Manu s'était dit prêt à supprimer purement et simplement cet article hors texte budgétaire, article dont il affirme connaître les effets pervers.
Pour faire passer une réforme importante, la loi travail en l'occurrence, nous avons dû nous résoudre à utiliser le 49-3, alors que pourtant il y avait eu une rediscussion sur la première mouture. J'ai déjà assumé les erreurs de communication sur cette première mouture. Nous avons trouvé un accord très large avec une majorité des députés socialistes et avec les syndicats réformistes. Mais je connais parfaitement les effets pervers du 49-3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris, et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée, et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerai que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerai de supprimer purement et simplement le 49-3.
Il faut dire qu'il l'avait expérimenté à 6 reprises pour le faire passer en force. 3 fois pour la loi Macron sur la croissance en 2015 et 3 fois pour la loi El Khomri sur la réforme du Code du Travail. Les gouvernements socialistes sont les rois du 49-3. 28 fois pour Rocard, 8 fois pour Edith Cresson, 7 fois pour Pierre Mauroy. Seul Raymond Barre et son futur néolibéralisme a tenu la barre avec 8 passages en force. François Fillon ne l'a même pas utilisé. Alors c'est vrai, l'utilisation du 49-3 dépend aussi de la majorité à l'Assemblée nationale et de la rapidité à laquelle un gouvernement veut faire appliquer une loi. C'est le cas d'Édouard Philippe sur le projet de réforme sur les retraites.
Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février,
continuez, monsieur le Premier ministre. Tout le monde garde son calme. Personne ne répond aux provocations.
Je disais donc.
Et si vous persistez, la situation sera évoquée devant le bureau. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre.
Je disais donc que c'était la raison pour laquelle, conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
S'il bénéficie d'une majorité de moutons confortables à l'Assemblée nationale, il ne voulait pas attendre plusieurs mois et l'étude des dizaines de milliers d'amendements de l'opposition pour faire travailler plus longtemps une France en pleine forme à 64 ans. Ça, c'était avant l'arrivée du coronavirus. Le gouvernement a reporté l'application de la loi de réforme sur les retraites. La pandémie l'a emporté sur le déni de démocratie. Amis fonctionnaires, travailleurs, syndicalistes, mais aussi avocats, médecins, artistes, votre combat a été récompensé. Il suffisait juste d'y penser, à quand une loi sur le partage des richesses et un État fort. Là, François Hollande ne pourra pas dire que le 49-3 est une brutalité. Et l'inconsolable le sera vraiment. Sa chanson ne sera-t-elle qu'un mauvais souvenir? Rendez-vous dans quelques semaines.
Car les Français ont les sourcils froncés, bon, va pas dégonfler, non, tu peux les enfler. Essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit. Envoie le 49-3. Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont présenté, n'ont pas l'air présentés de chemin, ne veulent pas prendre le droit. Envoie le 49-3. Si tu concoctes une loi qui est bien, que les gens ne voient pas, c'est rien, ne en veut pas, c'est bien qu'ils ont peu de poids. À défaut que soit crétin et qu'un tas de gens te croient. Envoie le 49-3. S'ils veulent pas t'écouter, si t'es dégoûté, si t'es dérouté par le fait que t'es douté qu'ils pourraient dégoûter ta plan de là, envoie le 49-3. Et si faut les berner, les cerner, bref gouverner, mais s'ils veulent pas se permettre de faire la guerre et que t'es consterné, c'est là, tu le vois, qu'il faut que tu n'envoies le 49-3. Dis-la François.
Le 49-3 est une brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ouais.
Le 49-3 est une brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ok, à moi, si le peuple ne veut pas se laisser soumettre,
ah bon,
s'il se peut qu'il ne veuille pas Dieu ou de maître, s'il conteste, si on peste, si on se dresse contre toi, envoie le 49-3. Si tu veux le réduire en esclavage, pendant que pour toi c'est le gavage, si t'as pas le sens du partage, si tu veux un carnage comme font les keufs dans le 9-3, envoie le 49-3. Si la démocratie s'écause toujours, des lois qu'on impose toujours et l'État qui s'oppose toujours à des tas de gens, le peuple s'entend qu'on le broie, là envoie le 49-3. Si ça passe plus, tes gens en ont plein le cul, que malgré tes nasses, plus tes gaz, tu n'as rien pu faire pour les dissuader, te faire entendre leur voix, envoie le 49-3. Si t'amènes une loi comme celle de Myriam, qui m'amène plus loin, qui m'amène islam, s'il bat et que j'entrevois, tire taille dans le tas, 49-3, si lui il dit.
Le 49-3 est un déni de démocratie.
Si, si,
si, si, t'as un déni de démocratie.
Ouais.
Le 49-3 est un déni de démocratie.
Si, si,
si, si, t'as un déni de
ok, s'il faut entraver les manifs, y'a l'état d'urgence. Les interdictions préventives, la dictature française se porte mieux qu'on le croit. Preuve en est le 49-3. Si les gens se lèvent en ayant l'élan des grands soirs, se mettent en tête, faire foirer des plans. Si le peuple se bat pour pas servir de proie, là envoie le 49-3. Pourquoi lui demander son avis, puisque t'as le tien? La palme est pointée sur la vie, donc tu t'abstiens. Tu lui fais croire que tout tient, ton nombre de voix, puis t'envoies le 49-3. Et si les gens se méfient, te défient, se défendent, qu'on fait fi de tes demandes de crédit? Si on ne croit pas dans ce jeu-là, un conseil envoie le 49-3. Car si tu l'emploies pas, tu verras casser la gâte à vas-y. Car ton tracteur attend à part avoir à tabac. Non, rien n'y fait la balance, l'alinéa 49-3, dealer François.
Le 49-3 est une manière d'empêcher le débat parlementaire.
Ouais.
Parlementaire.
Et comment?
Par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout.
Voilà.
Jusqu'au bout.
C'est ça. Si tu t'es tellement crié bêtement que malgré ton entêtement les gens savent que t'as classé tellement qu'ils descendent faire l'esclandre, crois qu'ils entendent de toi, envoie le 49-3. Si tu t'appelles Vax, Gamas, ta gaz, quoi qu'elle fasse, ta basse, Nas, la fracasse, l'armée là à sa place. Faut que la place pauvre soit dans la place, oui, tant de fois, et que t'envoies le 49-3. Si en un an tu l'as fait 4 fois, c'est pas grave mais fais gaffe quoi, il se pourrait qu'à terme ça se voit, si c'était déjà le cas, et pour tout retourner là, faut l'attendre que ça, que t'envoies le 49-3. Si tu perds patience, tu veux nous faire taire, balance. Le 49-3 avance tes pions mais c'est pas de chance. Nous les amis de Coupane, t'es mon pas, nous en veut pas, on retournera la France contre toi. Et si tu t'aperçois qu'avec tout ça personne ne t'apprécie, qu'on voudrait ta chute, tu traites à main avec les talons. Goût à 100 degrés d'eau, nous je crois qu'on devrait les 49-3.
Quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution.
Tout à fait.
Et elle nous a permis de faire adopter ce texte.
Voilà.
Qui aurait pu l'être avec une majorité qui était sans doute là,
certainement,
mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre de temps.
Exactement.
Il est temps de se quitter. Merci à Jean-Claude, Tonio, Patrick et Thierry d'avoir joué le jeu le temps d'une chronique avec ce fil rouge. Quelle histoire de l'émission à travers le temps. Depuis le 1er septembre 2000, on ne peut pas dire que la Terre tourne dans le bon sens. Le coronavirus servira-t-il de catalyseur? Le monde de demain sera-t-il le même que celui d'aujourd'hui? Nos combats seront-ils enfin couronnés de succès? L'avenir très proche nous le dira. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur les 90.0 de Radio B. Stood in my bed.